Radio Éphémère 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 19 novembre, il fait chaud dans nos banlieues, enfin un petit peu ça s'est refroidi, en tout cas là il commence à cailler sévère dehors, et vous écoutez la radio confortablement, doucement, dans le creux de votre oreille, comme tous les samedis, FMR ouvre avec les magazines, suppléments week-end, BD, télévision, puisque Thomas n'est pas là, celui du cahier du sport bien sûr, à partir de 13h, à 16h Big Bang, une nouvelle émission, 17h Vie d'ordure, c'est du punk, 19h Happy Her, 20h, Patrice alias Jésus pour Last Hétéro Experience. 21h30, Liquid Sky. Et 23h jusqu'à, 3h du mat, j'y crois pas. Beaucoup plus. Peyo et SKS pour Breakbeat Experience.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Oui, excusez-moi, j'ai laissé couler comme ça, c'était moyen. Je sais, mais bon, que voulez-vous. Donc j'espère que tout va bien se passer. C'est un supplément week-end où je suis tout seul jusqu'à l'arrivée du sport. Mais rassurez-vous, il y aura du bon, du gros, du lourd, puisqu'on est en pleine rentrée littéraire. Donc il y aura vraiment, vraiment plein de choses. Vous écoutez FMR, nous sommes en direct sur 89.1 MHz jusqu'à 5h du matin. Et profitez-en. The Crystal Method, Born Too Slow, extrait de l'album Legion of Boom, un album qui est distribué par une entreprise dont il vaut mieux pas acheter les CD pendant 6 mois parce que, Sony BMG a fait l'intelligence de faire la chasse en pirate au piratant les ordinateurs de tous ses clients, c'est très beau, c'est magnifique, c'est superbe, on applaudit très fort, c'est vraiment pas des méthodes. On s'en fiche, on entame directement Supplément Week-end avec les news. Oh, punaise, excusez-moi. On est en direct avec du matos parfois un petit peu rétif, voilà. Donc, point de vue info, sachez que ce week-end, il y a le salon de la bande dessinée de Colomiers. Et là, c'est en absence d'informations, je ne peux vous en parler, je peux juste vous dire que Colomiers et cette émission, on en a eu des vertes et des pas mûres, puisque l'an dernier, si vous vous souvenez, les requins marteaux qui s'étaient occupés de toute la scénographie de l'organisation du salon Colomiers, c'était plein que la mairie les avait pas payés vraiment dans les temps, mais juste avant que l'association dépose son bilan. Et que d'un autre côté, Henri Molina, à une époque, avait fait une réflexion machiste, qui est indigne d'un premier adjoint au maire chargé de la culture et surtout d'un médecin. Enfin bon, c'était pitoyable. Il y a des cons partout, comme on dit. On s'en fiche. On va plutôt parler de Ozart, dont c'est la deuxième édition, d'ailleurs, si je me trompe. Et à mon avis, je me trompe. C'est organisé par Radar, c'est la mairie d'Osville-Tolosane, donc l'inauguration a eu lieu hier. C'est une exposition d'art contemporain donc qui a lieu à la mairie. On vous en parle parce qu'on avait bien bâché le printemps de septembre, durant septembre et octobre effectivement. Or là, Thomas, qui n'est pas présent mais qui a été, m'a assuré avoir été surpris par le niveau artistique. Certaines œuvres eurent ainsi l'honneur d'avoir été exposées à Beaubourg et les thèmes et les matières abordées subissent un traitement qui est plutôt intéressant. L'invité d'honneur de cette édition, c'est Johan Jorda et une quinzaine d'autres, parmi eux Chantal Berry-Mauduit, Claudine Ducarroir, Jean-Pierre Laguéry, Jean-Léonard Strokoff, Rob Van Vegel, Marc Jaimine. Oui, je n'ai que le fly sous la main, mais je prends un malin plaisir à prendre les noms les plus compliqués à annoncer à l'antenne. Voilà. Ozart, c'est jusqu'au 4 décembre, c'est à la mairie d'Osville-Tolosane, donc c'est pendant les heures d'ouverture de la mairie, c'est du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30, donc Ozart, nouvelle édition, c'est jusqu'au 4 décembre. On revient dans la bande dessinée avec Eric Stallner, qui est un dessinateur qui a bien marqué la bande dessinée quand même d'une belle empreinte, la bande dessinée française, qui vit d'ailleurs à Cahors. Et il se fera le déplacement à Toulouse, à l'ancienne BD dessinée qui maintenant s'appelle la librairie Album, c'est rue Romiguière. Il viendra dédicacer la deuxième partie et fin de Blues 46. Qui s'appelle Allegro Furioso, qui est sorti aux éditions d'Argo et qui se passe justement pas très loin d'ici, dans la région. Donc si vous voulez découvrir l'album et si vous voulez vous le faire dédicacer avec l'auteur, voire même en parler avec lui, ça n'est strictement pas interdit, on peut discuter avec les auteurs, c'est ça qui est bien dans les dédicaces. Sachez que c'est ce vendredi à partir de 15h à la librairie Album, 7 rue Romiguière. Enfin, pour terminer, sachez que vous pouvez réécouter cette émission. On va voir tous les détails sur les bouquins dont on a parlé, aussi les textes des chroniques elles-mêmes, sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Comme ça, vous pourrez y faire votre choix ou carrément y aller et taper sévère sur nos chroniques, dire elles ont été trop consensuelles ou trop méchantes, ou que ça vous a pas plu, ou que vous demandez peut-être plus de détails, n'hésitez pas, les commentaires vous sont ouverts. C'est libre, c'est gratuit, on va pas faire du racket pour que vous puissiez en discuter, et puis voilà, vous pourrez vous aussi réécouter en plus ces émissions, voire même les précédentes. Et donc réécouter les fameuses émissions sur lesquelles on avait massacré allègrement le printemps de septembre, etc. Et aussi l'organisation du off que Radio FMR commence à préparer. On espère l'année prochaine à faire quelque chose de bien. On va commencer de suite avec la bande dessinée. Forcément, c'est le micro qui me fait des petits soucis. Je vous explique pourquoi, parce que primo, on est en pleine rentrée littéraire, et secondo, eh ben, j'ai vraiment eu... Voilà, un petit réglage à grand coup de pompe. Non, c'est le câble qui est complètement mort. C'est pour ça que j'ai eu ma voix qui est partie, qui est revenue. Ouais, bah, que voulez-vous, c'est la radio associative, hein. On n'est pas payé et on a vraiment un matos minime. Donc je vous explique, la rentrée littéraire, c'est vraiment très chaud. Et en plus, en même temps, bah, y a eu le prix de la critique, puisque j'en fais partie. J'ai dû choisir 5 tomes, 5 albums sur la production qui a eu lieu dans environ octobre, je vais dire plutôt novembre 2004 jusqu'à octobre de cette année. C'était pratiquement 1500 albums. En choisir que 5 dedans. Et je crois que j'ai chroniqué pas moins de... 200 albums, donc c'est pas évident de faire un choix. Le choix, il est fait. Je ne le révèle pas de suite. C'est personnel, parce que bon, le premier tour avait passé. Là, je vais faire le deuxième tour. On vous expliquera un jour pourquoi. Mais en tout cas, en attendant, eh ben, il y a énormément de bandes dessinées qui continuent à sortir. Il y en a plein que j'aimerais parler et qu'on n'aura pas le temps, comme par exemple, voilà. Allez, trou de mémoire. Bah, tant pis. Allez, on enchaîne. Oui, c'est le nouveau Black Sad qui est sorti hier. Je ne suis pas d'accord pour qu'il ait été sélectionné dans les nouvelles BD, parce que tout simplement, il est sorti qu'hier, c'est-à-dire largement après la clôture des votes. Enfin bon, tant pis. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment un album absolument excellent. On en parlera la semaine prochaine. Jean-Pierre Péco au scénario et Igor Cordet au dessin, ils sortent une série qui sera en 7 tomes, qui est dans la collection Série B chez Delcourt. Série B, c'est, en général, c'est plutôt de la science-fiction ou du western, mais en général, c'est plutôt quelque chose qui cartonne, qui tape. La série B, c'est vraiment dans le thème en question, c'est-à-dire vraiment les films de série B ou les séries pour ados, etc. Eh ben là, au contraire, on a plutôt une très très bonne saga. L'ésotérisme et le mélange mystique et fantastique. Péco connaît en tant que scénariste de Arcane, une série qui justement joue dans le style X-Files et qui a un bon succès en librairie. Ici, dans l'histoire secrète, eh ben, il joue justement à travers l'histoire officielle. Et c'est à la fois bien emmené, fantastique et sans trop d'anachronismes flagrants, juste des libertés. C'est justement sur des énigmes, des bizarreries de l'histoire. Comment Bonaparte s'est retrouvé à faire campagne en Égypte, ou le mythe du Saint Graal. 7 dates clés autour desquelles ont s'architecturé chacune des 7 tomes de la série L'Histoire Secrète. En fait, l'histoire non pas d'une dynastie, mais d'une fratrie de 4 frères et sœurs, il y a 5000 ans de cela, à qui le chaman mourant du village exterminé va confier un trésor d'une force inestimable. 4 artefacts, 4 cartes d'ivoire, qui représentent chacun un pouvoir. Il met bien en garde les enfants, désormais archontes, qu'il ne faudra ne jamais tenter posséder les 4 à la fois, tellement leur pouvoir est fort. Première chose que font les salmioches, bien évidemment, ils testent le pouvoir. Monstrueusement puissant des cartes combinées. Allez, hop, une météorite sur la Terre, zou, on y va sec. Premier tome, Genèse, 1400 avant Jésus-Christ. L'Égypte du Moyen Empire connaît une prospérité inédite sous le règne de Ramsès II, mais aussi grâce aux Juifs esclavagisés que Moïse prépare à faire revenir sur la terre promise. Ce sera le premier déchirement entre les 4 archontes qui vont s'affronter grâce à leurs pouvoirs, des pouvoirs qui resteront dans le meilleur roman de science-fiction, enfin le plus lu au monde, à savoir la Bible, comme étant les 7 plaies d'Égypte. Le tome 2, le château des djinns. Nombreux sont les Francs qui s'égarent dans le royaume chrétien d'Orient au XIIe siècle. Capitale, Jérusalem. Histoire de retrouver de la spiritualité dans une relique du Christ, ou tout simplement essayer de se refaire parce qu'ils ont laissé toutes leurs possessions dans les royaumes chrétiens européens. Et puis voilà. Le prince d'Antioche... On va pas y arriver, hein, je pense. Le prince d'Antioche, Renaud de Châtillon, est relâché des géoles arabes. Il va découvrir que la Terre Sainte n'est plus comme il l'a laissé. Des ghouls, des berserques, bref, de très puissants sortilèges qui sont en train de modifier des hommes ou de ressusciter des cadavres. qui montre que l'on se bagarre sévère pour trouver une coupe. Certains croient qu'elle a recueilli le sang du Christ, d'autres qu'elle porterait le nom sacré de Dieu. Graphiquement, rien à dire, c'est nickel, bien foutu, ça se laisse lire pour l'intrigue comme un bon roman, et le dessin bénéficie d'une bonne reproduction par une mise en scène efficace de paysages mythiques. C'est effectivement, l'amateur éclairé y trouvera quelques libertés avec la vérité historique, ça j'en ai parlé, la série, la saga se lit avec plaisir. La limitation à 7 volumes est une garantie de cohérence, ça s'appelle l'histoire secrète, donc les deux premiers tomes viennent de sortir, Genèse et le château des djinns, dans la collection série B chez Delcourt, Jean-Pierre Pecaud au scénario, Igor Cordet au dessin. On fait des petits travaux techniques là, hein, vous inquiétez pas. Vous écoutez Radio Éphémère, au cas où les craquements ne vous aient pas aiguillé. Vous êtes sur la poubelle des radios, 89.1 MHz, 12h16, 29 secondes sur la poubelle des radios, donc c'est supplément week-end. On passe à carrément autre chose. Jean-David Morvan, c'est un scénariste qui cartonne pas mal. Et il s'est pas mal, montré principalement via la science-fiction, aussi bien par sillage, mais aussi il a fait un petit peu de polar Altogo, qui est vraiment pas mauvais. Bref, Jean-David Morvan, c'est l'un des scénaristes qui marche le mieux actuellement en bande dessinée. On lui a confié Spirou. Charge à lui d'en faire quelque chose et il l'a fait, je veux dire, avec vraiment beaucoup de succès. C'est loin d'être inintéressant. Et ça fait des années qu'il en rêvait, scénarisé pour un mangaka. Et ben le mangaka, il l'a trouvé. Il s'appelle Toru Terada. Il l'a connu via les éditions Shueisha au Japon. Et ça s'appelle Le Petit Monde. Le premier tome s'appelle Bahamos, Bahamos. Et c'est chez Dargo. Bon, alors, scénarisé pour un mangaka, l'album, en fait, est presque dans les règles françaises, mais pourtant, il est très proche du manga, c'est plutôt étonnant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une énorme surprise, un crossover plus que talentueux, entre deux styles, deux genres, deux manières d'écrire, deux manières dessinées, qui, une fois de plus, ça c'est Jean-David Morvan qui nous avait habitué à ça, renouvelle complètement, bouscule complètement le genre SF immédiate et surtout le cyberpunk. C'est l'histoire de Komiko, une jeune fille qui a 4 frères et sœurs et une robot nounou qui vit dans un cadre aseptisé, robotisé, coquet, douillet, gnangnan. Son père est ambassadeur, sa mère, discrète épouse japonaise, tout à fait dans la norme de cette société très effacée. Et la nuit, comme tous les enfants de son rang, Komiko est lobotomisée dans des rêves dignes d'une licence Disney. Tous les soirs, elle s'endort et sa console Dreamweaver, ah, ça va pas faire plaisir à Macromedia Adobe celle-là, la propage dans un monde de dessins animés. L'occasion de réviser quelques leçons et de vivre des cauchemars politiquement corrects. Mais évidemment, dans les récrés d'école primaire de la très haute société, traînent quand même des choses prohibées. Mais non, pas de la drogue, bande de dépravés! Juste un petit logiciel. Le petit monde. Il fait fureur chez les enfants bien nantis à cause de son système de protection antiparentale. Ouais, il y a le système de protection parentale et le système de protection antiparentale. Ben voyons. Et surtout l'odeur sulfureuse que prennent tout d'un coup les rêves fournis par leur Dreamweaver. Le petit monde, c'est un bidonville, une favela en contrebas de la capitale. C'est là que se démènent Piedra pour vivre, survivre, est au début de l'histoire pour sortir vivant d'une embuscade menée par des motards qui se paient une partie de chasse. Bref, une lutte violente, sauvage, sanguinolente. Piedra est un jeune garçon camé qui ne compte que sur lui-même et entretient par la drogue sa nymphette fantasmée d'une enseigne de magasin. Le problème, c'est que, un, Piedra est aussi le personnage principal d'une cartouche pirate appelée Le Petit Monde, tatan, où il se fait passer pour le Peter Pan des gosses de riches, tatatan, et tome 2, en fuyant les loupards, il tombe pas loin de la somptueuse demeure d'un ambassadeur dans lequel dort une certaine petite Kumiko. Le choc des cultures va être brutal, et pas que dans le scénario. D'abord, le graphisme de Toru Terada, c'est sa première bande dessinée après une carrière dans l'illustration publicitaire, d'où un style arty-childish, un rond limite kawaii, mignon. Et s'il vous plaît, tout en couleurs acidulées, c'est un peu digne, je vais dire, d'une J-pop Hideru. Si vous voyez la L5, c'est encore pire. Terada impose aussi à Morvan de s'approcher d'une écriture largement plus manga, beaucoup moins d'ellipse, un tempo largement plus long. C'est proprement étonnant. On est quelque part entre Japon et France, tiraillé entre 7 heures de décalage horaire par un jet lag, entre une BD couleur artisanale de 50 pages et une production quasi industrielle de 192. Et surtout, l'histoire est amorale, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. C'est peut-être le chaînon manquant entre les deux mondes de l'édition. Ça mérite d'être découvert et surtout de ne pas fuir une couverture qui est franchement hideuse. On va changer un peu de cet univers gentil et mignon. Je vous emmène dans quelque chose qui est plus proche de la réalité, je vais dire. Dans quelque chose qui cartonne en général. Je vais vous emmener dans la techno pure et dure. Ah, vous connaissez si vous écoutez Radio FMR. Là, je vais vous emmener dans un technival. Alors attention, parce que je vais gueuler aussi peu que je peux, parce que ça va pas être évident. Attention, c'est parti. Diluc, Johan et Artie vous présentent Accro de la techno, c'est chez Albin Michel. Bon alors la techno, il faut savoir que c'est un gros fourre-tout pour désigner les musiques électroniques, rythmiques, les DJ enchaînent par des compositions appelées sets. Alors vouloir classer les différents mouvements, gabatech, drum and bass, two-step, hardcore, ambiante, c'est à peu près aussi vain que vouloir faire de même pour le rock. C'est non seulement un univers musical très riche, mais c'est au-delà d'un business, une culture suivie et générée par tous ces fanatiques. Résumé, la techno, un album, c'est un exercice ardu dont les auteurs, Diluc, Johan et Hardy, sont rodés, j'allais dire corrodés, mais c'est dans la même collection, des albums sur le rap, la reggae ou le metal. Et comme pour les précédents, Accro de techno ne vous épargnera rien sur ce mouvement musical. Soirée, star, drogue et gueule de bois, vu côté public et côté backstage, dans les bois ou sur le net, on se poile, on est mort de rire, on rigole des autres ou de soi-même. C'est un pur trip en vente légale et sans effet secondaire. Diluc, Johan et Artie, Accro de techno, c'est chez Albin Michel. Ouais, du sport, qu'est-ce
ouais,
qu'il y a?
Ouais, des stress, c'est quoi ce truc là? Je sais pas, fais quelque chose, prends quelque chose.
Non, ça va, ça cogne, j'adore.
Mais c'est quoi ce disque là?
Qu'est-ce qu'il dit?
Ce scud là, c'est quoi?
Non, ça plane pour moi.
Ah, c'est Planning Plastic Bertrand.
Bang bang, ma chasse lâche qui tourne mon lit à bouffer sa langue. On buvant trop mon whisky quand elle m'a fait dormir. Vidé, brimé, j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, va me taire. Ma poupée du ciel, le fin du béchiner. La star aura une gueule de bois. A bu ma bière, vendre ton verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi.
vite en passant. I am the queen of the divan.
Ouais, c'est ignoble, mais c'est la reprise par Kim K. Vous savez, celle qui chantait la 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 la, il est 7h15. Na, 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 na.
Ah ouais, ouais, ouais.
Petit Luc, c'est celui qui fait les rats. Johan, il a commencé chez Spirou. Il faisait la petite punkette là, faisait des aventures. En plus, toi, tu les connais bien, Johan et Hardy.
Ouais, ouais, parce que ce sont des Mulhousiens en fait, hein, enfin, d'Alsace donc.
Eh ben, fais leur coucou, ils écouteront l'émission.
Un petit peu expatrié en ce qui concerne Joran, hein, puisqu'il est installé dans le sud-est depuis pas mal d'années, hein, du côté de Marseille, Cassis, je sais pas, par là-bas. Hein.
Je sais pas exactement.
Tandis qu'Arty avait déjà fait un autre album avec, pas Joran, mais avec un autre dessinateur, je me rappelle pas son nom, hein, concernant la musique aussi, le punk rock, un truc comme ça, enfin bon.
Ils avaient fait précédemment, bah tu as les bouquins à côté de toi, donc ils avaient fait précédemment chez un autre éditeur, je sais plus si c'était chez Vendouest ou mais en général c'est vrai qu'ils sont très proches du milieu musical, page intérieure.
Non, ils étaient chez les je sais pas, c'était un truc
tout début page de garde.
Ouais. Arty et Riff, voilà, c'est ça, le rocker illustré de A à Z, voilà, c'est ça, hein, avec Riff, c'était pas avec Joan, quoi, justement, quoi, ils en avaient fait un autre.
Si, avec Joan, ils en ont fait trois autres, enfin, je sais pas si vous avez suivi, mais donc.
Il y a Techno Attitude également, hein, il y a Petit Luc, Joan Arty, pour Clop Attitude, et Bio Attitude, donc, hein, pour le trio qui nous sort donc Accro de Techno chez Albin Michel.
Et ils font aussi, donc, ils ont sorti aussi Accro de Reggae, Accro de Rap et Accro de Metal, et c'est vrai que c'est assez hilarant, ça. En plus, c'est vraiment bien foutu.
Ouais, non, mais bon.
Il y a du texte de la BD, ça résume bien l'ambiance, quoi. Bon, Kim K, vaut mieux être sourd qu'écouter ça, hein.
Ça plane pour moi.
Ouais, mais plutôt être sourd qu'écouter ça. Non, je suis pas sûr. Puisque, Corbeyran sort un album collectif, Paroles de Sourds, justement, chez Delcourt, dans l'excellente collection Ancrage. C'est à l'initiative de BD Boom, l'organisation du festival de la bande dessinée de Blois, qui a lieu d'ailleurs en ce moment, ce week-end. Corbeyran, c'est un scénariste prolifique et il avait tenté de diriger un album collectif dans le cadre du festival BD de Blois. C'était Le Troublant, Parole de Tollard. Les dessinateurs avaient mis en image des témoignages de prisonniers. C'était vraiment touchant parce qu'il était vraiment question de quotidienneté, témoignages dont ils n'osaient faire en public. Et là, il y avait le côté anonyme de l'écriture et surtout, d'être mis en dessin par un dessinateur plus ou moins connu, mais justement il y avait cette reconnaissance, c'était pas mal. Là, c'est la même démarche, mais avec des sourds. Dans cet album, donc, il est question de la surdité. C'est un mal qui touche en France 4 millions de personnes qui sont sourdes et ou malentendantes. Enfin, en général, c'est plutôt ou malentendantes. Et seulement 800 000 qui pratiquent le langage des signes. C'est un monde à part qu'on entrevoit par les 21 témoignages. Le premier d'entre eux, c'est celui d'un scénariste célèbre, Pierre Christin, le papa de Valérian et Laureline. Pourtant, j'avais interviewé, ce que je savais pas, c'est qu'il est malentendant. Cela ne l'a pas empêché de suivre des études poussées, d'être devenu prof à l'IUT de journalisme de Bordeaux, et surtout de vivre l'avancée technologique des aides à l'audition, qui sont toutes, chacune, les unes, deviennent de plus en plus petites, de plus en plus fines. Ce qui, il finit en fait son texte par une phrase assez étonnante. Au fur et à mesure que je vis, j'entends de mieux en mieux. Tout n'est pas dit dans ce recueil justement sur l'infirmité qu'être sourd. Mais on découvre énormément de choses et notamment le langage des signes que l'on entrevoit dans presque chaque case. C'est une excellente initiative. Point important, je tiens à préciser qu'il y a au moins deux sourds à Radio FMR. Mais à la différence de la mienne, la surdité de Rascal n'est pas due à la masturbation. Pardon. Et allez, another blague, hit the dust. Collectif sous la direction de Corbéran pour la direction Parole de Source, c'est dans la collection Ancrage et Delcourt et c'est à l'initiative de BD Boom. Sur la poubelle des radios, FMR. Supplément week-end avec vous, jusqu'à 13h et quelques pelures. On va enchaîner avec une bande dessinée, à mon avis, là, du sport. Il va me sauter dans les bras. Il va me la piquer sauvagement. Attends, excuse-moi.
Ouais, de toute façon.
C'est obligé, là. C'est... Ça peut pas être autrement. Puisqu'il s'agit de Superman Red Son, une histoire complète absolument étonnante, scénarisée par Mark Miller, dessinée par Dave Johnson et Killian Pluckett. C'est dans la collection DC Heroes, édité par Panini Comics, puisque contrairement à ce que tu as annoncé la dernière fois, désormais DC, depuis le début de l'année, est édité par Panini Comics. Et c'est absolument étonnant. L'une des meilleures manières, de renouveler les poncifs sur les super-héros et d'enrichir la mythologie dans laquelle ils appartiennent, c'est les réalités alternatives. Bon, par exemple, on a parlé en avril dernier,
les fameux What If.
Exactement. C'est Alternate Realities, d'ailleurs. Les Realities, d'ailleurs, s'appelle comme ça la collection chez DC. Et on avait parlé en avril dernier, et trois fois plutôt qu'une, de Superman Identité Secrète, où un Clark Kent en avait marre de porter le nom d'un personnage de comics de super-héros. Bon, cette fois-ci, imaginez que la capsule du jeune Kal-El, survivant de la planète Krypton, s'écrase non pas dans le Kansas, mais en Sibérie, en pleine URSS. Et on va obtenir une histoire complètement délirante, où dans les années 50, les États-Unis vont découvrir avec horreur que Staline dispose d'une arme plus puissante que n'importe quelle arme nucléaire, un alien au pouvoir surhumain, acquis à la cause de l'URSS. Je sais pas, ce qu'ils ont pas traduit Superman en russe, ça aurait été amusant, tiens. Et quoi que fasse le génie universel du savant Lex Luthor, il est à craindre qu'un jour que l'Amérique ne devienne une démocratie populaire. Pourtant, le camarade Superman ne se sent pas à l'aise comme gloire soviétique. D'abord, Staline, le petit père des peuples, a décidé d'en faire son poulain, et tant pis pour tous ses enfants naturels qu'il a placés à des postes clés. Ensuite, il y a l'impérialisme américain qui fait tout pour imposer sa morale à des pays qui n'en ont rien à cirer. Et là, on sent bien le côté oppressif américain, c'est étonnant pour un comics. Il y a la femme de son ennemi, Lex Luthor, Lois Luthor, Lane de son nom de jeune fille, qui ne le rend pas insensible. Et enfin, il y a la notion même de surhomme qui ne peut être compatible avec la doctrine communiste, antithèse vivante de tout ce qu'a pu écrire Karl Marx, Lénine, Beria, Staline et Trotsky. Pardon, faut pas dire Trotsky, sinon Sibérie, quand froid, vachement glagla. On se prend une claque monstrueuse. D'abord parce que l'histoire marche parfaitement, la morale aussi, les rouages retournés sans souci, le moteur d'horloge prend une dimension tout à fait autre où les États-Unis sont aux abois méchants en diable, comme quoi, et finalement voués à la disparition d'un Superman complice d'un régime paternaliste, soit, mais oppresseur quand même. C'est littéralement renversant et machiavélique. Ajoutez à cela que les dessinateurs se sont éclatés à mettre des couleurs flashy et un graphisme très proche du réalisme socialiste soviétique. C'est un régal incroyable. Pour les amateurs de Superman, ou même ceux qui connaissent très vaguement l'histoire de Superman, je sais pas, même si vous avez suivi que les films, eh ben, la gifle est absolument énorme. Mark Miller au scénario, Dave Johnson et Killian Plunkett, Superman Red Son, c'est chez DC Heroes, chez Panini Comics, et c'est monstrueux. J'annonce juste les fonds sonores. The Crystal Method, c'est ce que vous entendez actuellement, c'est l'album Legion of Boom, j'en ai parlé, et qu'il fallait plus acheter les CD de chez Sony BMG, surtout plus, non, plus jamais. Et Warp 10+3, que vous avez aussi entendu à côté et sur lequel j'enchaîne. Et tout à l'heure, pendant du sport, vous entendrez The Orb, Oblivion, Winter Shield et plein d'autres bonnes choses. On continue avec une série, enfin c'est une histoire complète en 3 tomes qui m'a littéralement fait triper. Il s'agit de Mertonville, c'est absolument excellent. Donc Michel Falardeau est absolument énorme. Le 2e tome vient de sortir, Initiation aux éditions Paquet. Et tant qu'on y est après Superman dans les redresseurs de Thor, et ben on continue le triptyque canadien qui nous avait tant surpris. L'histoire de Lydia qui s'inscrit en fac d'art option justice. Au Mirail, à la fac de lettres de Toulouse, on a plutôt l'option syndicalisme, mais bon, ça c'est pas le même genre d'action, ni de redresseur de tort. Arf, et je doute que ça marche aussi bien. Enfin bon, Lydia découvre donc avec effarement que la fameuse option dont qu'on ne trouve qu'à la fac de Mertonville prépare un diplôme de justicier, et elle se demande comment elle a pu y être admise alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir particulier. En tout cas, ses profs, du moins pas que ceux en art, c'est celles de justice aussi, sont persuadés du contraire. Mais il est temps pour Lydia de faire mieux connaissance avec ses camarades étudiantes dans la même UG qu'elle, de se choisir un nom, de se concevoir un costume de justicier et surtout de passer la redoutable initiation imposée par les secondes années. À ça, le bizutage étudiant semble avoir encore de beaux jours dans la belle province. Je sais pas, ça doit être du Céline Dion à fond, je sais pas. Le premier tome m'avait scotché par son graphisme qui ne semblait pas vraiment parfait, ses décors à peine esquissés, et qui pourtant accompagnait parfaitement la mélancolie de l'héroïne et l'inventivité de l'histoire. Lydia est une révélation. Initiation est presque une confirmation, et je crois que je suis grave accro à la fraîcheur de Mertonville. pourvu qu'il ne s'arrête pas à 3 tomes, Michel Falardeau, il a tant à faire de son talent, parce que c'est énorme. Mertonville, deuxième tome sur 3, Initiation, c'est aux éditions Paquet. Voilà, et j'ai fini de mon côté pour la bande dessinée. On laisse courir le fond, hein, il n'est pas mauvais. Il s'agit du remix de Kid for Today, excusez-moi, de Boards of Canada. Je l'ai même pas fait exprès sur le titre et sur le nom de l'artiste. Remixé par Stereolab. Phased par Santessa. Vous écoutez FMR. We'll be right back. Du sport. Dis-moi.
Oui.
Dis-moi, il y a quelque chose à la télé où tu veux vraiment entamer la BD?
Quelle BD?
Bah, je sais pas, Thomas en a parlé, donc si tu veux en reparler, c'est l'occasion.
Ouais, ouais, Even Eleven. Bah,
on voulait l'avis du spécialiste en plus.
Ouais, ouais, non, mais bon, spécialiste, non, parce que je t'avoue franchement que c'est la première fois que je lis un manga.
Attention!
Du début jusqu'à la fin.
Ah ouais?
C'est la première. Ah ouais. La première. J'ai eu du mal d'ailleurs au départ. Ouais.
Hein. À cause du sens de lecture?
Bah, disons qu'au départ, je me dis, bon, au niveau des pages, ouais, mais c'est également les bulles. c'est tout inversé, quoi. Donc, c'est pas évident. Hein, ok.
Et alors, si tu veux savoir, donc c'est traduit en français évidemment. Donc, le français se lit de gauche à droite. Mais le japonais, depuis 1953, se lit aussi de gauche à droite. Donc,
ouais,
c'est,
ouais.
c'est aussi renversant aussi, en lecture originale. Donc voilà.
Voilà, non, mais sinon l'histoire est bien rigolote, hein, de toute façon. Il y a un humour qui est bien saignant, quoi, par moment, quoi. On voit, hein, que c'est pas mal, quoi, l'histoire de ces deux gosses, là. Il y a Saigo et Ezoku qui tombent dans une petite île, comme ça, quoi. Une île paumée du Japon, mais vraiment paumée de chez perdu. Et ils se disent, bon, bah, ok, on va jouer au foot, on va monter un club de foot dans notre lycée. Il manque de bol, il n'y a pas de club de foot dans le lycée et il n'y a personne qui veut jouer au foot. Il y a une malédiction qui plane sur l'île à propos du fait de jouer au foot. Et il comprend pas parce que il y a une deuxième petite ville, il y a deux villes en fait sur l'île. Et dans la deuxième petite ville, il y a un lycée, enfin c'est pareil, hein, que dans leur petite ville. Et là, ils ont un club de foot. Alors ils se disent, mais pourquoi on peut pas monter notre club de foot? Eh bien, c'est à cause de la malédiction de Doha. Doha comme Doha au Qatar, hein, comme la capitale du Qatar, hein, pareil, la malédiction du Doha. Et en fait, c'est une malédiction, elle remonte à un temps très lointain où les deux villes avaient disputé un match de foot qui s'était vraiment très mal passé. Parce que à l'origine, au 14e siècle, on nous apprend que les Japonais, justement, c'est ça qui est très intéressant, connaissaient déjà le football. Parce qu'au 14e siècle, figurez-vous que une fois par an, les deux meilleures équipes de chaque patelin se rencontraient comme ça et le but du jeu c'était de faire passer la balle sous un portique. Il y avait deux portiques autoposés avec un champ au milieu et donc il fallait faire passer la balle sous le portique, hein, pour que ce soit terminé. Et le vainqueur, en fait, l'année suivante, il avait la richesse, il avait tout super. Et le perdant, lui, il avait la famine, le bordel et tout. Mais comme ils habitaient sur la même île, il se filait quand même un coup de main. Celui qui gagnait tout, il filait quand même un coup de main à celui qui était dans la dèche l'année suivante. Voilà, et c'était cette fameuse malédiction. Enfin, c'est assez intéressant. C'est le volume 1 donc, de ce manga qui s'appelle Even Eleven. Avec en plus des petites notes, il y a tout le temps des petites précisions, tu sais, des notes de bas de page, de bas de bulle et tout, pour t'expliquer vraiment en détail ce qui se passe. Il y a quand même une bonne erreur, mais il y a une erreur que j'ai repérée.
Attention,
mais je ne la retrouverai pas, c'est bien dommage, hein, mais enfin bon, il y a une erreur, parce que bon, il parle de foot et tout, mais c'est contemporain, c'est-à-dire il parle de Beckham, il se prend pour Beckham, mais non, c'est pas Beckham, c'est qui? Mais c'est Bobby Charlton, bien sûr. Enfin bon, n'importe quoi. C'est vraiment bien, quoi, à conseiller, donc, hein, aux amateurs de foot, qui veulent découvrir, hein, c'est l'occasion de découvrir un manga, moi, c'est assez agréable, hein, de toute façon, quoi. Even Eleven, donc.
Dont le premier volume vient donc de sortir,
ouais,
chez Taifu. Je crains que on fasse une alerte, une alerte BBC. Oh, la BBC, c'est la chaîne publique anglaise et eux aussi ils ont leur téléthon, sauf que le téléthon il a eu lieu hier.
C'est le téléthon, c'est pour les enfants dans les hostos et des trucs comme ça.
Voilà, ça s'appelle Children in Need.
C'est la Red Nose Day en Angleterre. Maintenant c'est classique, hein, c'est Nez Rouge, quoi.
C'est opération Nez Rouge, c'est donner un peu de joie aux enfants qui sont hospitalisés.
Voilà.
Et c'est énorme. C'est-à-dire, si vous voyez le téléthon en France comme un truc ringard que Gérard Roll Scholz ne veut plus présenter, c'est pas un hasard. Alors que en Angleterre,
non, parce que pour voir des gens qui toute la journée, toute la nuit, essaient de battre des records à la con, complètement débile. Enfin bon, juste parce que bon, ça passe devant la télé, hein, et puis que bon, il y a des gens qui ont filé des thunes. Bon, non, là, c'est vachement plus intéressant. Parce que tout le monde participe, hein, c'est-à-dire que t'as tous les tenants et intervenants de la chaîne et même d'autres chaînes, hein, d'ailleurs, hein, parce que bon, bah, c'est pas uniquement un truc BBC, hein, il y a également les gens des chaînes concurrentes qui y participent, hein, parce que c'est pour une bonne cause, et ils font des trucs spéciaux pour la soirée. Et chaque année, il y a un clip, un nouveau clip. Alors cette année, le clip, hein, c'est avec Liberty X et d'autres, hein, qui s'appelle A Night to Remember, hein, c'est le clip de cette année, hein. Alors bon, il y a toujours des apparitions un petit peu cocasses et tout. On a vu French and Saunders il y a 3-4 ans. Enfin bon, ils y sont tous passés de toute façon. Et il y a également la soirée, hein, Children in Need, hein, qui dure, t'en as pour toute la soirée, hein, jusqu'à minuit, hein. Là, j'ai le programme, hein, tu vois, quoi, qui est passé hier soir.
Sur BBC World, ça s'est arrêté un peu plus tôt, mais en tout cas, c'est un show, c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'on va pas vous mettre des performances, etc.
Mais attends, ils s'arrêtent
pour les, à fond.
Ils s'arrêtent à 11h à 11h du soir pour les news, mais après, ils reprennent, hein. C'est-à-dire, ça reprend, après toute la nuit avec des émissions spéciales, des trucs spéciaux et tout. Alors, on a vu le nouveau Doctor Who, hein. Tu m'en parlais hors antenne, Christopher Eccleston, qui est quand même vachement bon, moi je trouve, hein. Il est bon dans le rôle de Doctor Who, il y a pas de problème.
Et il l'a quitté.
Et voilà. On voit donc le nouveau, hein, David Tennant, quoi, ils ont carrément tourné avec le réalisateur là, comment il s'appelle, Davies. Russell T. Davies, hein, le mec qui a régénéré Doctor Who. Ils ont carrément tourné un petit truc spécial, rien que pour ce jour, rien que pour cette émission, quoi. Et il y en a plein d'autres qui fait ça. Il y a également des apparitions d'autres grosses stars, hein, les stars de Coronation Street, de EastEnders, t'as également Emmerdale, enfin bon, c'est la totale. On te fait la totale. Il y a également les Sugar Babes, super. Ouais. Katie Tunstall, super cool. Ouais, c'est génial, quoi.
Ah ouais, les monstrueuses. Ouais. Et c'est un CD qu'il ne faut pas acheter. Ça fait partie des CD qui vous piratent votre ordinateur si vous le mettez. Donc bravo Sony! On applaudit.
Ouais, mais bon, c'est con, ouais. C'est comme ça.
C'est très con, c'est
voilà,
très con.
Donc, mais c'est passé hier soir sur la BBC, hein. Voilà, bon, voilà, mais juste pour dire que bon, hein.
C'est un truc où justement la BBC monte toutes ses productions et voilà, quoi. C'est quelque chose qu'on aurait bien aimé voir en France. Après tout, un petit extrait de PJ en plein milieu, en rapport justement avec la myopathie, tout ça. Je pense que ça relèverait un peu le niveau du Téléthon.
Ouais.
Mais bon.
Allez, une mauvaise nouvelle, hein, qui concerne pas la télé, enfin si, indirectement, parce que là, la télé, grosse consommatrice de films quand même, hein, une fois qu'ils sont passables à la télé. Là, les genres cités, ça se passe pas trop à la télé, mais si, ou très tard, avec des super macarons qui disent qu'il faut pas que tu mettes tes gosses devant, et c'est normal. C'est à propos des films X et des films gore qui vont être surtaxés, hein, en effet, hein, je le lis aujourd'hui, hein, dans l'IB, hein, les députés ont, lors de la discussion des crédits 2006 du cinéma et de l'audiovisuel, les députés ont décidé d'augmenter brutalement de 2 à 10% la taxe sur les films X ou très violent entre guillemets, hein, suivant un amendement de Pierre-Christophe Baguet, UDF, Hauts-de-Seine, par 19 voix, 18 contre et 6 abstentions. Ça, c'est pas mal, hein.
C'est
aussi
passé de nuit, ça.
La taxe va au compte de soutien financier de l'industrie audiovisuelle et cinématographique, hein. Le PS s'est abstenu, l'UMP est resté divisé, et le ministre de la Culture s'opposant à cette option, jugeant que la notion de très grande violence demandait précision. Bon, il est moins con qu'il en a l'air, quand même, ce ministre de la Culture, on va dire.
Mais attends, hein, mais ça me rappelle quelque chose, ça.
Ouais.
Ça me rappelle Giscard.
Eh ben oui, exactement. Ouais, mais attends, parce que cette taxe n'a jamais été supprimée, la taxe sur les films X, on va dire. Hein. Ça n'a jamais été supprimé, attention, quoi. Et là, il s'agit d'une augmentation d'une autre taxe, hein, d'une taxe qui était naturellement perçue, hein, sur la vente des films, qui permet justement de financer d'autres films. Ok. Sauf que ce genre de films, généralement, ne se font jamais financer par ce genre d'organisme. Tu vois, c'est là.
Ah, c'est faux. Faux. J'ai vu des films, avec le macaron CNC, etc.
Ok. Télé à présent, avant de vous parler de ce qui... Cette semaine, c'est pas top, hein, c'est vraiment pas top. Donc c'est pour ça que je vous ai carrément préparé un petit topo sur un acteur que vous ne connaissez certainement pas. Et pourtant, si vous regardez la télé assez souvent... Même le, si vous allez au cinéma, bah vous l'avez certainement déjà aperçu, voilà, pouh, je vais y arriver. Mais tout d'abord, avant d'évoquer la télé cette semaine, un petit plein feu sur le nouveau Mad Movie qui est sorti il y a quelques semaines, une semaine je crois, hein, avec Doom en couverture, le film, ça y est, il va sortir.
Le film que tu laisses le cerveau à l'accueil.
Voilà, c'est ça, quoi. Et que tu mets pas tes enfants devant. D'accord? Hein? Avec, aux surprises, l'augmentation du nombre de pages concernant la télé, mon petit gars. Eh ouais, la rubrique Télémaniaque, il y a carrément plusieurs pages, quoi. Ça, c'est carrément dingue, quoi. Parce que ça commence par le coin des séries avec une spéciale interview de George Eads. C'est le belâtre que tu vois dans la série Les Experts. Hein. C'est le mec qui le gueule carré là, tu sais quoi, brun comme ça quoi.
Los Angeles.
À propos de
Las Vegas.
À propos de l'épisode des Experts que Tarantino a filmé où lui il se fait carrément enterrer vivant.
Oula.
L'angoisse quoi. Il y a également la page sur ouais où c'est carrément super génial avec les sorties justement DVD des différentes saisons de bonnes séries comme De Flics à Miami, Au-delà du réel, des séries à venir sur nos chaînes, Invasion sur ABC et Threshold. Ça c'est vachement difficile à dire, ça veut dire le seuil du plancher.
Threshold.
Voilà, c'est vachement difficile.
On n'y arrive pas.
Et pourtant on l'apprend tout de suite hein en anglais hein, sur CBS. Et encore une page spéciale de Martin Winkler sur CSI, les experts, où il dit que c'est vachement mieux que ça n'y paraît.
C'est quand même un médecin qui en parle quand même. Hein,
non,
attention.
Parce que en fait, il faut regarder ça en VO parce que la traduction est un peu débile. Mais ça, on savait déjà, de toute façon, quoi.
Enfin, on savait que les VF étaient nuls et surtout commandés par TF1. Méfiez-vous, quoi. C'est une catastrophe.
Ouais. Avec les scènes coupées, hein, bien sûr. Hein, sur la version DVD, il y a les scènes coupées, donc il y a pas de problème. Vous pouvez les voir en entier, parce qu'il faut savoir que TF1 coupe hein, certaines séries. Il y a quelques images et tout, ça passe à l'as, tranquille, hein, il n'y a pas de problème. Hein.
Oui,
il n'y a pas déplorable. Que TF1 d'ailleurs, les autres chaînes publiques le font, idem pareil. Et pourtant, je vais continuer à parler de TF1. Vu qu'on parlait il y a quelques semaines, et Thomas m'avait rappelé un petit peu, parce que j'avais un trou de mémoire, je commence à en avoir de plus en plus, mais c'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez.
Moi, c'est tout le temps, rien, hein, je te rassure.
À propos des repentis, Once a Thief, le fameux film de John Woo, dont il avait fait la version cinéma, c'est-à-dire la version Hong Kong. Il avait retourné une version téléfilm pour les États-Unis, enfin tournée au Canada. Et après, la série est démarrée, la série qui s'appelle Les Repentis de John Woo. On peut voir le téléfilm, c'est-à-dire le truc qui fait 1h40 et qui introduit la série. C'est cet après-midi sur TF1, tout à l'heure, là, à 14h10. Avec la nana Sandrine Holt et les deux mecs qui se disputent la nana, hein. C'est ça l'histoire des repentis, hein. Ces deux cambrioleurs et tout qui sont amoureux de la même nana, mais parce qu'ils ont fait une connerie qui concerne le grand big boss de Hong Kong qui est en fait le père de la nana, ils sont obligés de s'expatrier, ils sont obligés de se tirer, et donc ils se tirent où ? Aux États-Unis. Voilà donc, et aux États-Unis commence une nouvelle histoire des repentis, donc avec Ivan Sergei également qu'on a vu dans Preuve à l'appui hein, dans les nouvelles saisons là, et Nick Lee Krychek dans X-Files entre autres. C'est cet après-midi à tout de suite là, 14h10, et ce soir donc 23h10, bah les experts Manhattan hein, donc Gary Sinise. Je sais pas si t'as regardé là.
Non.
T'as pas regardé?
Mais je capte. Alors, mal la une.
Dommage. Alors c'est pas mal parce que bon bah dans les experts en fait il y a eu l'épisode des experts Miami, et puis bon ouais il doit venger absolument la mort de la jeune fillette, et c'est pour ça qu'il part tout seul à New York et il tombe sur Gary Sinise. Hein. Ok.
J'ai fait un spoiler de l'intro de l'épisode qu'ils ont diffusé samedi dernier.
Énorme. Alors par contre je suis incapable de te dire, je me rappelle pas du tout quel est le morceau des Who qui est donc le générique du troisième. C'est encore un morceau des Who. Ah ouais, pas de problème, bien joué.
Je me suis trompé, j'avais pas les génériques de fin, donc j'avais
pas vu. Mais c'est bon quoi, mais on te le fera samedi prochain, pas de problème, vous avez droit hein, le générique des experts Manhattan. Donc deux nouveaux épisodes.
Je croyais que t'aimais pas les experts là.
Ça va, ça passe quoi si tu veux.
Mais non,
quoi,
mais attends, tu m'as soutenu mordicus. Ah non, j'aime pas les experts, je l'ai mis sur le site web.
Ouais, non mais attends, c'est pas que j'aime pas quoi, c'est-à-dire que bon bah je regarde ça un petit peu avec c'est un petit peu décalé, si tu veux, quoi. J'ai un œil un peu décalé. Je regarde, je crois pas à ce qu'il me raconte parce que bon, de toute façon, c'est complètement impossible, hein, d'avoir le net plus ultra de la technologie pour pouvoir, résoudre le crime d'un, sans-papier qui a été retrouvé dans une poubelle. Tu vois, enfin bon, j'y crois pas du tout, mais du tout. Et c'est là, dans la plupart des cas, dans la plupart des scénarios qu'il propose, bon, bah, c'est, attends, laisse tomber, quoi. Mais par contre, bon, ok, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, comment il tourne à l'intérieur de cette espèce de mensonge, quoi. C'est ça qui est rigolo aussi, hein. C'est pour ça que j'aime bien, quoi. Alors,
ça s'appelle un coming out.
Ouais, non, mais bon, attends, il faut regarder, ça avec un œil un petit peu différent de temps en temps, quoi. Les experts Manhattan, donc ce soir, à partir de 23h10, c'est ce qui est annoncé officiellement, mais comme il y a la Star Academy en direct, laissez tomber, ça va être du 23h30. Et encore, il y a le tunnel de pub. Avec deux épisodes de Manhattan Expert, c'est ainsi, Hold Up et Jeu Très Interdit. Hold Up, bon bah c'est à propos de trucs normal et donc c'est passable. Et le deuxième, bon bah ok, c'est un moins 12, hein, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Excusez-moi, demain soir, profitez-en.
Attends, je tiens à signer quand même que dans ce cas-là, si vous avez le câble, la DSL ou la TNT, zappez, on en a parlé sur Doctor Who, puisqu'il y a un énorme classique qui arrive enfin en France ce soir, puisque eh ben figurez-vous que arriveront enfin les Daleks, vous savez, ceux qui disent
ouais.
exterminate. Enfin bon, voilà.
Profitez-en, demain c'est sur Canal Jimmy et c'est après The Shield, la troisième saison. C'est profite, donc je crois que c'est le dernier épisode visible, hein. Il y en a pas la semaine prochaine sur Jimmy, j'ai même pas vérifié, hein, tellement c'est vraiment une des meilleures séries dont la sortie DVD est effective en zone 2, on peut l'acheter ici en France, la série.
Yes.
Profite. Trop cool. Alors là, vraiment trop cool. Allez-y vraiment à fond parce que vraiment c'est une série géniale. C'est impeccable. C'est suivi à 23h10 d'un documentaire de 99 spécial Profit, hein, donc avec interviews des scénaristes, hein, Greenwald, McNamara, de Adrian Pasdar qui joue le rôle principal, hein, de Jim Profit Stokowski. Ce qu'il s'appelle pas Profit vraiment. Sinon, au rayon des séries, ben qu'on connaît, mais ça fait plaisir de redécouvrir peut-être, là c'est peut-être l'occasion, hein, de redécouvrir dans de bonnes conditions cette série qui a eu, on va dire entre 10 et 15 Emmy Awards, tranquille, hein, qui a tenu je crois 9 à 10 saisons, c'est Frasier, l'histoire de Kelsey Grammer qui interprète le rôle de Frasier, un psychiatre qui donne des émissions de radio, quoi, hein, également, quoi, et c'est vachement apprécié. Moi, j'ai eu du mal à m'y faire parce que bon, ça a été diffusé n'importe comment, hein. Paris Première, qui n'a plus Scrubs, puisque Scrubs, ils ont tout liquidé, vous propose la diffusion de Frasier, hein, c'est demain soir à partir de 19h50, hein, dans la même case horaire, mais là, on commence par l'épisode pilote, plus le deuxième épisode, en version masterisée, c'est-à-dire la possibilité de le voir en version originale, et là, ce sera peut-être plus intéressant. Frasier, donc, demain sur Paris Première à partir de 19h50. Bon, enfin, tout le monde en dit du bien, quoi, je veux dire, il faut tenter le coup, hein, quand même, hein, y a pas de problème. Lundi, Série Club vous propose une soirée, ils sont venus, ils sont parmi nous, ils vont tous vous bouffer. C'est spécial extraterrestre, donc, avec, tout d'abord, pas complètement inédit avec cette série produite par Steven Spielberg dont j'ai re-regardé il y a pas si longtemps que ça, Rencontre du troisième
type, oui. Grandiose.
Encounter from the Sort.
Jean-Marie Trintignant, excellent.
Alors, et là, il s'agit de la série produite par Spielberg. Et d'ailleurs, il y en a deux qui redémarrent. Hein. Il y en a une autre, c'est Haute Tension, c'est sur Canal Jimmy, c'est tous les lundis. Mais je vous en ai déjà parlé à l'époque avec Cole Hauser, David Kiss et puis bien d'autres, Titus Bolivar. Mais il s'agit d'une série qui s'appelle Disparition. Eh oui, des gens qui ont disparu, qui sont revenus, on sait pas d'où, ils les ont enlevés, ils vont les ramener, avec Steve Burton, Joel Gretsch, Emily Berg et Dakota Fanning, hein, qui a été réemployé après par Monsieur Spielberg, alors, dans son dernier film. Avec suivi, donc, toujours sur Série Club, lundi soir, à 22h20 de documentaire, donc un making-of sur le tournage de Disparition. Suivi à 23h05 de X-Files, et là, c'est con parce que bon, ils n'auront plus nous passer l'épisode pilote, hein, tout simplement le premier, hein, pour nous expliquer, voilà, une série sur les extraterrestres, là, parce qu'au début, vraiment, en plus, c'est explicite, quoi. Tu vois le premier épisode de X-Files, bon, bah, ok, t'as compris, il est dedans à fond, excellent.
Et puis surtout qu'il a eu une carrière avant, que, en ouais, fait, il a pété un câble et tout ça. Ouais.
Il est vachement connu parce que, bon, bah, il a aidé à l'arrestation du serial killer qui était le plus connu, le plus recherché des États-Unis. Puis bon, ils l'ont foutu au X-Files et tout. Il nous passe l'épisode numéro 2 qui s'appelle Gorge Profonde, donc, où on apprend un peu mieux sur les, on commence à se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il fout ce bordel, mais pourquoi il l'empêche de travailler correctement, en voyant ce pauvre homme. Mais c'est quand même assez intéressant. Suivi à 23h55 de Roswell, l'épisode pilote, encore des histoires d'extraterrestres, hein. Suivi à 0h40 des envahisseurs. Ah, voilà, ouais, du jeu. Ouais, ouais, ah ouais. Pourquoi pas le pilote non plus? Bah non, on te passe l'épisode 3 et c'est l'épisode où bah pour la première fois tu vois un envahisseur se faire dégommer, tu sais, et puis il disparaît dans une espèce de halo orangé, rouge.
Il n'y a plus de traces.
Il n'y a plus rien, tu vois. Voilà, c'est le premier épisode dans lequel on voit justement un envahisseur se faire dégommer et suivi à 1h40. Alors là, c'est plus de la soirée, c'est de la nuit. mais ça n'a rien à voir à mon avis parce que c'est programmé régulièrement à cette heure-ci. C'est Third Rock from the Sun, troisième planète après le soleil.
C'est
également des extraterrestres. Oui, je suis désolé. Hein.
Oui, mais bon, c'est de l'humour, quoi.
Non, mais c'est très bon, hein. C'est vraiment très bon. Mais il faut dire que, à passer certaines saisons, passer la deuxième, troisième saison, c'est plus de la sitcom propre que on fait moins un petit peu gaffe au fait que la famille est extraterrestre et il y a plus des relations interraciales plutôt que des situations telles qu'elles sont figées au départ de cette excellente série qui est troisième planète après le soleil. Voilà, tout ça c'est lundi soir sur Série Club. Et alors là, j'ai paumé ma deuxième feuille, je suis pas dans la merde. Si, voilà, quand même j'ai retrouvé. Sinon, il y a également au rayon documentaire cette semaine sur Planète, c'est ce soir en plus, hein, c'est à voir si vous ne le connaissez pas, c'est excellent, c'est vraiment très bon, c'est du Depardon, on ne présente plus ce monsieur qui est un grand monsieur du documentaire, de la photo et même du cinéma, hein, et en 83 il réalisait un documentaire d'1h45 quand même qui s'appelle « Fait d'hiver ». Il a passé plusieurs mois dans un commissariat parisien et il en sort ce documentaire excellent, hein, qui s'appelle Fait d'hiver. Hein. On voit un petit peu là, ça fait 22 ans, ça va faire 22 ans plus tard. On va voir quel est le rapport des gens avec les keufs, quoi, 22 ans, 23 ans plus tard à Paris. Hein, mais là, il s'agit quand même de Paris intramuros, quoi. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais avec son lot assez morbide, hein, on va dire, hein, des gens qui pètent le plomb, ils retrouvent un cadavre dans une chambre. Enfin, bon, c'est pas mal.
Et puis en même temps, l'évolution des moyens.
La vieille paumée dans la rue. Je sais plus où elle habite, enfin bon, des histoires vraies, quoi. C'est vraiment des histoires vraies, puis
c'est le quotidien, quoi.
Et tout, voilà, quoi, c'est ça. Voilà, parlons à présent de monsieur James Handy. James Handy, qui est un acteur que vous avez certainement déjà vu, hein, je le disais, au sommaire de cette rubrique. Pourquoi? Parce que, il est apparu dans un nombre incalculable de séries. Bah, alors là, je suis tombé sur le cul quand j'ai fait la recherche, j'ai regardé la liste, je me suis dit, non, tu vois, c'est pas possible, quoi. Pourtant, j'ai déjà vu dans pas mal de trucs. Parce que on le repère, hein, si tu veux. Et à l'origine, j'avais repéré parce que c'était le mec qui jouait le rôle. Il jouait le rôle du Lou Handelman dans la série Profiler avec Holly Walker, avec Bailey Malone. Et en fait, c'est le mec qui est flic également, mais qui arrête pas de faire chier Bailey Malone, je crois, dans la saison 2, parce que Bailey Malone a caché quelque chose par rapport à sa fille et donc il devrait se faire virer et tout. Il cherche à faire virer Robert Davi, donc le patron du profileur et tout, et il fait chier tout le monde. Et il avait déjà tenu un rôle similaire dans NYPD Blue lors de la deuxième saison. C'est Lieutenant Commander Haverill qui fait chier Sipowicz, parce que Sipowicz à l'époque il est pas rangé des voitures, il picole comme un trou, il va baiser les putes, enfin bon, c'est vraiment le Sipowicz, le côté obscur, on va dire, hein, tranquille. Et lui, comme il fait partie un petit peu, c'est le patron des affaires internes, il a décidé que Sipowicz, il était à dégager et que donc il fallait le virer du service, le virer de la police et tout. Et il casse les couilles comme ça à Sipowicz pendant des épisodes, vraiment pendant pratiquement toute une saison, on le voit. Enfin, il apparaît plusieurs saisons, hein, dans NYPD, de toute façon. C'est un personnage récurrent, mais c'est vraiment l'enculé de première, le bâtard de sa race, quoi, à fond les manettes. Donc James Handy dans ce rôle de commandeur Avril dans NYPD. Sinon, d'autres séries, il a également eu où il fait des apparitions, on va dire, comme ça, en tant que guest. Il y a dans Preuve à l'appui en 2003. 6 apparitions dans Alias, de 2002 à 2003. C'est le directeur des opérations Arthur Devlin, mon petit gars. Alors là, tu vas réviger, tu dois tout de suite repérer. Il joue également dans 2 épisodes de West Wing, dans ER, c'est-à-dire Urgence, dans Profiler, j'en ai parlé, Easy Street, bon série, dans The Practice, hein, donc dans Walker Texas Ranger, aussi un épisode double, dans X-Files également, Melrose Place, Beverly Hills, Picket Fences, LA Law, c'est la loi de Los Angeles dont j'ai parlé la semaine dernière.
Donc en fait, son rôle, c'est...
Quantum Leap, c'est-à-dire Code Quantum, ouais. Wise Guy, un flic dans la mafia,
ouais.
Stingray, Cagney Ilassi, Spencer for Hire, ça fait quand même la bonne liste, tu vois, quoi.
Mais en fait, son boulot, c'est pas comédien, c'est guest dans les séries.
Il est comédien. D'ailleurs, en ce moment, je peux dire qu'il ne fait pas de télé. Et il est sur les planches, à Los Angeles. J'ai une pièce de théâtre en ce moment à Los Angeles. Au cinéma, on l'a vu également dans des films relativement connus, on va dire, hein, quand même, dont le film de TF1 qui passe demain soir. De M. Night Shyamalan, qui cause de bande dessinée, qui cause de super-héros, qui s'appelle Unbreakable, incassable, donc, hein, avec Samuel L. Jackson et...
Et vraiment, il y a une très bonne, Bruce Willis, bonne analyse du monde du super-héros dedans. C'est vraiment très très bien calculé.
C'est presque tout ce qu'il y a de bien d'ailleurs.
Non. Moi, je trouve que Samuel L. Jackson est vraiment étonnant et Bruce Willis en tant que brute qui se retrouve face à un destin. Night Shyamalan fait des scénarios qui sont très simplifiés en général, mais il y a une excellente mise en scène de ce côté-là. Rien à redire quoi.
Donc et avec également donc James Handy que vous pourrez découvrir. Peut-être si vous l'avez jamais vu demain soir dans Unbreakable, il joue le rôle d'un prêtre. On l'a vu dans Jumanji également 95 où jouait le rôle d'un exterminateur. On l'a vu dans Rocketeer, l'excellent film,
Rocketeer, adapté d'une BD des années 80,
où il joue le rôle d'un agent FBI, dans Arachnophobia également et dans Bird, le film de Clint Eastwood, entre autres. Hein, c'est une liste non exhaustive parce que je peux dire que le mec a tourné. Il a pas dû prendre beaucoup de vacances, hein, de toute façon, quoi. Il a l'air d'aimer son boulot, hein, ce monsieur James Handy, par ailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais sur la télé, à mon avis. Donc, il va être temps de passer au sport, hein, mon petit gars.
Eh ben, on y va.
Allez.
Eh ben, voilà. Donc, c'était Supplément Week-end. Moi, j'aurais juste une chose à vous dire. Faut pas vous étonner si c'était le bazar aujourd'hui. À mon avis, toutes les émissions de Parlotte, ça va continuer à être bazar. Et message personnel à l'intendance de la radio. Faut remplacer le câble côté régie. C'est une horreur. Vous avez manqué le début de l'émission qui a commencé il y a maintenant 13 minutes, et ben sachez qu'il y a eu pratiquement pas de redit de Tic Verbo, ni de niquage de fin. Il y a eu des plantages quand même dans les sketchs. Là, je me suis un peu loupé, j'étais pas très en forme. Il y a eu un gros problème de son, et puis voilà. Et seulement 13 minutes de dépasser, c'est en très net progrès. On est en pleine régression. Sinon que dire de plus? Ah, du sport, vas-y.
Et oui, on a complètement oublié là. Envoie un petit peu là le morceau là, comme ça là. J'en ai pas parlé, j'ai complètement oublié, j'avais amené le disque exprès pour ça. C'est la musique du générique de cette nouvelle série dont je vous ai parlé la semaine dernière il y a 15 jours, Rescue Me. C'est la musique du générique, donc un morceau des Von Bondies, hein, qui vient de l'album qu'ils ont sorti l'année dernière. Excellent album au demeurant, hein, produit par Jerry Harrison. Rescue Me, cette série sur les pompiers, 3 ou 4 ans après le 11 septembre, produite et interprétée par Dennis Leary. Alors, à la longue, quand même, Dennis Leary, on le trouve un peu chiant, quoi. Quatre épisodes après, il se passe toujours pas trop grand-chose, c'est un petit peu dommage. Et ce qu'on peut reprocher un petit peu, le reproche principal que je fais à cette série, c'est que ils arrêtent pas de causer. Que à la fin t'en perds le fil, que tu sais plus ce qui se passe, que en plus c'est pourri. parle pour ne rien dire. Enfin bon, vraiment, des fois c'est trop quoi. Enfin, faut voir. Rescue Me, donc c'est quand même une série diffusée sur Canal Jimmy tous les jeudis à partir de 20h45. Voilà.
Bah oui, on a inversé les micros, donc c'est pas évident. Donc juste pour vous annoncer la suite des programmes, à 16h, Big Bang sur Radio FMR, 17h, Vie d'ordure, c'est du punk, 19h, excusez-moi, Happier, puisque à 20h, eh bien, il y aura Fabrice alias Jésus dans la Stéphéro Experience, 21h30, Liquid Sky, je vais me faire massacrer par les permanents de la radio, et 23h, SKS et Payo pour Repeat Experience et la Jungle. Voilà, see you, ciao, rendez-vous la semaine prochaine à partir de midi sur cette antenne. N'oubliez pas, vous pouvez intervenir sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net, et tout de suite c'est du sport.